Merci beaucoup pour cette présentation et de mon côté, je voudrais dire la reconnaissance du coup du particulier du président pour cette invitation qui me fait honneur, je le dis, sachant que c'est une banalité, mais en l'occurrence, c'est quelque chose que je veux ressentir vraiment, puisque, comme cela vient d'être rappelé, j'ai le très grand honneur d'être le premier non-juriste à assumer cette tâche. Cherminer, après toute une liste de juristes du bon salon et de grande réputation, faire effort pour ne pas être trop en deçà de l'honneur. Qu'est-ce qu'un droit? De quelle sorte d'être dispose-t-il? Une remarque, droit, tout comme les autres choses normatives, n'est pas de la même manière une chose naturelle. Ce n'est pas un fait brut. Vous voyez, comme l'économie contemporaine a apporté une grande dignité, il y a des personnes de manière de cette majeure de ce qui ne s'appelait pas encore, mais ce qui est désormais l'ontologie sociale. Il ne suffit même pas de dire qu'un droit est comme toute valeur, toute norme, toute construction sociale. C'est vrai. En effet, parmi les nombreuses choses sociales, les droits, même ceux que l'on a longtemps qualifiés de naturels, ont des propriétés spécifiques. Le droit en général, de l'autre, à savoir l'ensemble des normes juridiques, est une chose sociale. Les prescriptions sont socialement est socialement applicable, même s'il s'agit de ce qu'on appelle les lois naturelles. Trois prévise la réalité sociale en distribuant les actes selon un codage, séparant le permis défendu. Les droits, the rights, ont en outre une propriété spécifique. Ils dotent celui, celle ou ceux qui les possèdent de la capacité d'introduire certaines modifications dans le monde. Ce sont, pour employer la terminologie d'un philosophe que je vais citer un certain nombre de fois, John Searle, ce sont des pouvoirs déontiques qui affectent les possibilités d'agir d'autrui en créant des obligations, positives ou négatives, ou, si on veut, des devoirs. Un droit n'est pas une chose naturelle, comme une montagne, ni seulement une convention sociale, comme un chèque ou un billet de banque. C'est un outil social rendant possible la création d'un état de choses nouveau lorsque son titulaire l'exerce ou lorsqu'il est violé. Un droit n'est pas une chose naturelle. C'est un instrument social, disais-je, impliquant la possible création d'un état de choses nouveau. Mais ces pouvoirs déontiques que sont les droits interagissent avec les choses naturelles dont se compose aussi l'environnement de l'agir humain. Ce qui nous contraint à nous demander, avec Searle, je le cite, comment l'existence des faits sociaux se rattache aux autres choses qui existent. Or, la réponse à ce genre de questions implique des choix ontologiques qui ne sont pas toujours clairement aperçus, non plus que leurs conséquences. Un droit subjectif, par exemple, le droit de propriété, peut concerner des choses matérielles, une maison, ou immatérielles, une idée, une procédé technique, Un droit subjectif n'est pas l'énoncé d'un fait. La propriété, pour employer les mots de Kant, la possession intelligible, n'est pas identique à la détention factuelle. Kant qualifie de simple possession physique. Son énonciation comporte d'emblée une dimension normative. Dire « ceci m'appartient », c'est émettre une revendication. C'est aussi, corrélativement, prononcer une interdiction. Autrui n'a pas le droit de s'emparer de cette chose mienne, ni de l'utiliser sans mon consentement. Cette revendication et cette interdiction ne peuvent se fonder sur le seul fait de la possession. Je peux avoir acquis de manière frauduleuse cette chose que je prétends mienne. Elles ne lui sont cependant pas indifférentes. La détention factuelle implique par elle-même une prétention normative. Ce n'est pas à moi, trouble. Les droits, comme toutes les normes, produisent des effets réels, sans pourtant que leur être de forme soit réductible au fait de leur existence sociale. Or, le dualisme de l'être et du devoir-être, ou, dans le vocabulaire de Kelsen, de la factualité et de la validité, interdit, à mon sens, de penser ce double caractère des droits et plus généralement des normes, autrement que sur le mode soit de juxtaposition, ce sont des normes, des idéalités et aussi des faits sociaux, ou soit d'une interaction entre deux ordres d'être indépendants, aussi difficilement explicables que l'était l'union de l'âme et du corps pour la métaphysique cartésienne. Il est donc souhaitable d'abandonner ce dualisme qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout et de se demander ce qu'il en est des droits lorsqu'on adopte une des deux positions extrêmes considérées par Kelsen dans la théorie pure du droit comme l'une et l'autre insoutenables, je vais les citer, soit un monisme idéaliste soutenant que, sans voler de Kelsen, la validité du droit est absolument indépendante de l'efficacité, soit un monisme réaliste affirmant que, je cite Kelsen, la validité du droit se confond purement et simplement avec son efficacité. Or, on peut trouver dans certaines formes de jus naturalisme, ou théorie des droits naturels, une illustration de la première orientation, et dans certaines formes du positivisme juridique, une illustration de la seconde. Je fais une remarque de vocabulaire, valable pour maintenant et pour la suite. Pour éviter les périphrases, je parlerai de juste naturalisme pour désigner la ou les théories du droit naturel et de juste positivisme pour désigner les différentes variantes du positivisme juridique. Est-ce qu'ils ont mon exemple idée? Est-ce que je pourrais en voir un?
Parce que je ne me souviens plus des nuances. Merci beaucoup.
J'essaie de respecter les consignes de la. Donc, premier point, après cette brève introduction, modernité des droits subjectifs, le jus naturalisme. Il ne saurait être question d'examiner ici, dans toute sa diversité, la conception des droits naturels et positifs dans les multiples constructions jus naturalistes, même en s'en tenant à ce qu'on nomme habituellement le droit naturel moderne. Je précise que pour ma part, j'évite cette expression, droit naturel moderne, j'évite de l'employer, car elle suppose un parallélisme que je crois discutable, tout à fait discutable, entre celui-ci et un droit naturel ancien de l'existence duquel il y a quelques raisons de douter. Je ne vais pas développer ce point ici, et j'ai conscience que, disant cela, je m'oppose frontalement, je vais d'ailleurs le faire aussi dans la suite, à celui qui a donné son nom à ce que je fais aujourd'hui, Michel Villet, bien entendu. Horesco référence. Mais voilà. Non, je le dis en passant, je n'adhère pas à la présentation commune opposant un droit naturel des anciens et un droit naturel des modernes. C'est Léo Strauss qui a développé cette opposition. Elle a été reprise par un certain nombre de philosophes du droit. Tout simplement parce que je ne crois pas qu'il existe un droit naturel des anciens. En ce sens qu'il n'y a pas une doctrine du droit, ni chez Platon, ni chez Aristote, ni chez Épicure, ou chez les stoïciens. Il y a évidemment des éléments, mais ce n'est pas à partir des trois lignes d'Aristote parlant du dikaion, du dikaion, qu'on peut dire qu'il existe une théorie du droit naturel. Alors que oui, il existe des théories structurées, développées, et même abondamment développées du droit naturel dans la philosophie du droit moderne. Je crois qu'il n'y a pas de symétrie. Et il y aurait d'autres raisons, mais ce n'est pas mon objet. Je vais tenter de montrer que la conception des droits qui a développé le droit naturel moderne repose sur une vision de l'être de ces droits qui reflète à sa façon certaines ambiguïtés de la modernité et de la conscience qu'elle s'est donnée d'elle-même à travers une certaine manière de concevoir les normes qu'on peut grossièrement qualifier de rationalisme, très grossièrement. La question de l'origine historique des droits subjectifs est controversée. L'expression elle-même, sinon le concept, est née en Allemagne, sans doute à la fin du XVIIIe siècle, si je suis les indications fournies par Olivier Jean-Jean, qui, en ce domaine, fait autorité. Vers 1830, l'expression « droit au sens subjectif » ou « droit subjectif » est devenue courante en Allemagne, selon le témoignage du juriste anglais John Austin. Fidèle disciple de Jeremy Bentham, Austin, qui a fait tourner les universités allemandes à la fin des années 1820, Austin déplore que l'usage s'y soit répandu en Allemagne des expressions droit au sens subjectif et droit au sens objectif pour désigner ce que la langue anglaise nomme respectivement right et law. Pourquoi se compliquer la vie? Bah oui, le problème, c'est que right est comme droit, diritto, etc. Bref, les langues romanes ou germano-romanes, elles, condensent les deux significations en un seul et même mot. Je reviens. Cette terminologie, dans l'objectif de droit subjectif, suscite l'idée erronée, selon Austin, d'après laquelle il existerait un genre ref dont le droit subjectif et le droit objectif seraient les extrêmes. Que l'on suit ou non Austin. Les premiers chapitres de The Concept of Law de Hart fournissent de bonnes raisons de ne pas adopter sa conception, qualifiée par d'impérativiste, du droit. Mais qu'on suive ou non son analyse, on est là au cœur du débat. Affirmer l'existence de droits subjectifs et a fortiori de droits subjectifs originaires, les droits naturels et inaliénables de l'homme, n'est-ce pas compromettre la préséance logique de l'obligation sur le droit
voilà.
Quoi qu'il en soit, ce vocabulaire s'est de fait imposé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier au sein de l'école pandectiste allemande, qui en a fait des concepts d'usage commun. Toutefois, même si l'expression « droit subjectif » est assez récente, l'idée, comme souvent, est antérieure à l'expression. En effet, la montée en puissance des droits subjectifs est liée, je crois, à certaines propriétés structurelles des sociétés modernes. Évoquons brièvement trois aspects de leur construction, qui est donc bien antérieure à l'apparition du vocable. Premier point. Même si on ne partage pas, ce qui est mon cas, l'affect antimoderne de Michel Villers, ni sa thèse très discutée, selon laquelle la notion de droit subjectif serait un dommage collatéral de l'ontologie nominaliste de Guillaume Docquin, on doit lui accorder que les droits subjectifs sont une découverte, une invention moderne. C'est par une projection rétrospective, observe-t-il, que nous nous apercevons des droits subjectifs dans le droit romain ou chez les philosophes, juristes et canonistes médiévaux. Analysant le manuel juridique le plus fameux de l'époque impériale, les Institutes de Gaius, Villet souligne que les droits, jura, n'y sont pas conçus comme des prérogatives incombant à des personnes, mais comme des rapports objectifs entre personnes et choses, rapports qui se font sur et doivent éventuellement être ramenés à une juste répartition du bien et du tien. Et il conclut, c'est mon texte numéro 1, le langage de Gaius ignorait la notion moderne de droit subjectif qui naît d'une autre philosophie. Pas de droit réel en droit romain, ni de droit personnel, pas de droit de propriété, ni de droit de créance, et toujours pas de droit de l'homme. Fin de citation. Michel Villet. Notons aussi parallèlement que l'émergence des droits subjectifs accompagne et illustre cette quête de l'identité dont Alain Libera a magistralement exposé les attendus et retracé les étapes dans son livre en plusieurs volumes magnifiques, archéologiques du sujet. Son cours la naissance du sujet de droit et par conséquent celle des droits subjectifs est une pièce du dispositif de personnification d'un sujet précédemment entendu d'abord de manière logique. Grammatical. Ça, c'était le premier. Deuxième point, la promotion des droits subjectifs est un aspect d'une reconfiguration du champ juridique dans laquelle la notion de personne juridique ou de sujet de droit acquiert une position centrale qu'elle n'avait pas dans ses formes très modernes. Max Weber a souligné le lien qui existe entre la formation d'un droit reposant sur le libre arbitre personnel, des Willkürtes Recht, comme il le nomme, avec son des barbarismes, et donc lien qui existe entre la formation, si c'est un grand admirateur hein, de Weber, mais simplement sa langue reste un peu en travers de la gorge, comme à tous ceux qui nous disent de traduire ce qui est posément formé. Max Weber a souligné le lien qui existe entre la formation d'un droit reposant sur le libre arbitre personnel et ce qu'il nomme les deux grandes forces rationalisantes que sont d'une part l'extension de l'économie de marché et d'autre part la restriction du champ du droit corporatif au profit de l'État, désormais investi d'un quasi-monopole de la production juridique. Il y a là un paradoxe instructif. La subjectivation des droits, dont bien sûr les déclarations américaines et françaises de la fin du XVIIIe siècle sur l'expression solennelle, la subjectivation des droits accompagne un processus, la formation des États modernes, d'assujettissement croissant des sujets au double sens que revêt désormais le terme, au pouvoir centralisé et irrésistible de l'État. Michel Foucault a largement contribué à éclairer ce nexus qui fait que, je le cite, dès le tout début, l'État fut à la fois individualisant et totalitaire. Troisième remarque enfin, comme l'a souligné le sociologue Niklas Luhmann, le développement des droits subjectifs est directement lié à un processus qu'il nomme Ausdifferenzierung, disons, de différenciation fonctionnelle, qui est, selon lui, un des traits caractéristiques, voire le trait caractéristique de la modernité. Ce processus a eu pour effet une transformation de la structure même du droit. Les droits subjectifs, au moins dans le cas des libertés négatives fondamentales définissant le périmètre de l'autonomie juridique, les droits subjectifs sont, observe-t-il, une institution paradoxale. Car, contrairement à la compréhension ancienne du jus, qui obéissait à la logique symétrique de la réciprocité, réciprocité des pouvoirs et des obligations, les droits subjectifs s'inscrivent dans une logique asymétrique de la complémentarité. Au droit de A correspond asymétriquement une obligation de B, mais ce droit n'est pas assorti d'obligation de la part de A lui-même. Ce qui fait dire à Luhmann que ce droit, le droit subjectif, n'a pas de correctif en lui-même. Provocateur, Luhmann parle même du scandale logique que sont les droits de l'homme. C'est peut-être le propre des droits moraux, à la différence des droits proprement juridiques, de créer ainsi des obligations asymétriques et des droits asymétriques. En tout cas, le découplage du droit et de l'obligation favorise une colonisation de la sphère juridique par les droits moraux, confère aux droits subjectifs une souplesse qui leur permet d'être mobilisés dans les secteurs les plus divers. Un droit de la personne humaine n'est pas, contrairement au droit du propriétaire ou du locataire, strictement lié à une institution juridique particulière, la propriété en l'occurrence, mais il est susceptible de s'adapter à des contextes indéfiniment variés. C'est probablement une des principales raisons du succès et de l'efficacité de cette thématique. En bref, la naissance moderne des droits subjectifs n'est pas seulement celle d'un nouveau concept de ce qu'est le jus, elle correspond à la mise en place d'une nouvelle ontologie juridique selon laquelle ce qu'est le droit, l'homme, doit désormais être pensé à partir des droits, the rights. C'est contre cette ontologie et ses conséquences que réagira Bentham et à sa suite le positivisme du futur. Mais avant de revenir là, la prochaine fois, remontons aux origines de la notion moderne de droit subjectif. D'abord, le point suivant, après ces considérations préliminaires, générales, de Suarez à Grotius, émergence hésitante des droits subjectifs. On trouve au chapitre 2 du livre premier du traité De Legibus ad Deo Legislatore de Francisco Suarez, texte de 1612. Suarez est un des éminents
prolifique représentant mon homme selon scolastique espagnol, qui est un mouvement lié à la philosophie extrêmement dense et important, lié à la contre-réforme. Parce que je suis allé à Salamanque, j'ai été logé dans une ancienne abbaye reconvertie en hôtel, et on m'a dit, en fait, vous occupez la chambre de Francisco Suarez, qui était la cellule de Francisco Suarez. J'ai du mal à dormir, en pensant au nombre de dizaines de mots qu'il a écrit et que moi, je ne dirais pas. En tout cas,
on trouve au chapitre 2 du livre premier de son traité, partiellement traduit en français, je crois que c'est chez Dalloz, des lois et des dieux législateurs, mais c'est une traduction partielle seulement et faite malheureusement non pas à partir de l'original latin, mais plutôt à partir d'une traduction espagnole. Ce qui, évidemment, enfin bref, c'est toujours utile. On trouve donc, au chapitre 2 du livre premier du traité des lois et des dieux législateurs, Suarez, à l'occasion d'un examen des diverses étymologies qui ont été proposées du mot ius, la définition suivante, c'est du texte 2. Selon la signification stricte du droit, il s'agit de celle qui fait dériver ius de justitia, on a coutume d'appeler droit proprement dit ius une certaine faculté morale que chacun possède, soit sur ce qui est sien, qui regarde le soir, soit à une chose qui lui est due, adresse inévitable. Donc, la faculté morale que chacun a en vue de la chose qui est sienne, ou en vue de ce qui lui appartient d'une manière quelconque, s'appelle droit, et celui-ci paraît être proprement l'objet de la justice. Cette définition, mine de rien, traduit un ébranlement de la conception, on va dire, objectiviste, classique, de ce qu'est, ce qu'était le jus. Le droit est présenté comme une faculté morale de l'individu, comme le pouvoir qu'il a de s'approprier une chose, soit en tant que propriétaire, jus in re, soit en tant qu'usager de plein droit, jus ad rem, et d'engager les procédures judiciaires, les actiones, lui permettant de recouvrer ce jus s'il est indûment lésé. On a donc affaire à un droit opposable, ou à ce que, dans la terminologie actuelle de la philosophie anglo-saxonne, on nomme plain right. Mais Suarez restreint aussitôt la portée de cette innovation considérable en privilégiant une autre étymologie du mot, selon laquelle ius dérive de iubere, ordonner ou commander. Cela lui permet, au détriment de la conception de la loi en tant qu'expression de la recta ratio de la droite raison, conception adoptée depuis Cicéron par la tradition dominante, cela lui permet de faire concorder la définition du jus avec la conception impérativiste de la loi qu'il professe, Suarez, à la suite de Guillaume Lecam. Il écrit donc, c'est mon texte 3, si nous prêtons attention à l'autre étymologie, qui fait dériver du verbe iubere, il semble que ce terme désigne la loi, car la loi est déposée dans un ordre, un commandement, une notion, ou un pouvoir, une période. Ainsi, malgré l'ébauche d'une définition du droit subjectif comme faculté morale, ce sont les termes mêmes qu'emploie Suarez, et on va retrouver après chez Topsius, c'est bien la signification objective, le droit en tant que loi, qui l'emporte en fin de compte dans la construction du De legibus ad deo legislatore, comme le montrent les dernières lignes du chapitre, selon sa signification propre, écrit alors Suarez, le droit est synonyme
de
la loi. Néanmoins, la conception volontariste de la loi qui est développée au cours du traité, la loi est, je cite Jaurès,
un acte de volonté juste et droite par lequel le supérieur veut obliger le subordonné à accomplir telle ou telle chose. Cette conception volontariste de la loi ouvre la voie à une interprétation volontariste des droits subjectifs qui culminera bien plus tard au XIXe siècle. Un pas supplémentaire est franchi par Hugo Grotius.
Des prolégomènes du droit de la guerre et de la paix, pareil,
en 1625 à Paris, Grotius était exilé, des conséquences du conflit ravagé l'Europe à cette époque, Grotius était protestant, je dis. Il est catholique et donc il se réfugie à Paris parce que terre catholique
se sentait menacé dans son pays natal.
Enfin, c'est pas très compliqué. C'était le moins sous la protection du roi catholique. Bon, il faut que je vérifie ça. En fait, de toute façon, ça n'a pas d'incidence sur ce que j'ai dit.
Des prolégomènes du droit de la guerre et de la paix, on ne retient souvent que l'affirmation audacieuse suivant laquelle ce qui est avancé dans le traité à propos du droit serait vrai, que si quand même nous accorderions ce qui ne peut être concédé sans un grand crime, qu'il n'y a pas de Dieu ou que les affaires humaines ne sont pas l'objet de ses soins. Fin de citation. Mais si cette hypothèse qui est d'ailleurs aussitôt écarté par Grotius, peut être formulé, c'est parce que le droit naturel, aussi bien que est avant tout chose humaine. Le fondement du droit est cette propriété spécifiquement humaine qu'est la sociabilité. Societatis appetitus, dit Grotius, ou encore vis socialis, la force sociale, l'instinct social ici. De sorte que le droit de nature est, dit Grotius, celui de la nature humaine. Jus naturae humanae scilicet, le droit de la nature, c'est-à-dire de la nature humaine. Celle-ci, la nature humaine, doit être regardée comme, je cite, la mère du droit naturel. Humaine, la mère du droit naturel. Cet accent mis sur le caractère rationnel et humain du droit naturel conduit Grotius à accorder parmi les différentes significations du mot ius, comme Suarez l'étudie et essaye de penser laborieusement le lien entre les différentes significations que semble comporter ce vocable latin, à accorder une attention particulière à ce que l'on peut nommer par préférition, bien sûr, pas ce terme, le droit subjectif. Tout en mentionnant deux autres significations plus classiques, le droit au sens du juste ou du non-injuste, le droit comme loi ou règle créant des obligations, lesquelles relèvent de ce qu'on nommerait ultérieurement le droit objectif, Grotius s'accorde en effet la priorité au droit qui, dit-il, se rapporte à la personne, lequel est, là on a une définition du droit subjectif, ceci, une qualité morale, qualitas moralis, attachée à la personne pour posséder ou faire justement quelque chose. Le droit subjectif doit donc être considéré comme, je cite Grotius, le droit proprement ou strictement dit. Il inclut la potestas, tant sur soi-même que sur les autres, autrement dit, les droits personnels, le dominium, autrement dit, les droits réels, compris comme jura in re, propriété,
ou comme loura ad rem, droit aux utilités. Et enfin,
troisième volet, les créances.
Grotius regroupe donc, sous le chef du droit faculté morale, toute la panoplie de ce que l'on appellera ultérieurement
les droits subjectifs.
Il résulte de cette conceptualisation du droit subjectif une conséquence importante que Grotius, à vrai dire, ne tire pas de façon explicite. À la suite de Thomas d'Aquin, il divise le droit objectif, à savoir le droit comme loi,
comme règle des actions,
en droit naturel, jus naturale, et droit volontaire ou positif, jus voluntarium. Ce dernier se subdivisant en droit volontaire divin et droit volontaire humain. Si l'on a vu qu'il doit y avoir, en quelque façon, un parallélisme de structure entre le droit objectif et le droit subjectif, il en résulte qu'il doit logiquement y avoir des droits subjectifs naturels dont certains pourraient même être inaliénables. Grotius écrit au chapitre 2 du livre 1, c'est le texte 4, car le but de la société est que chacun soit maintenu dans ce qui lui appartient. Il est aisé de comprendre qu'il en aurait été ainsi quand même le droit que nous appelons maintenant la propriété,
dominion,
n'aurait pas été introduit, car la vie, le corps, la liberté auraient toujours été des biens propres à chacun auxquels on aurait pu attenter sans injustice. Fin de citation.
On le voit,
comme ce sera le cas chez l'homme, mais sans l'argument de l'appropriation laborieuse, qui sera décisif pour ce qu'on appelle la théorie de l'individualisme possessif, comme ce sera le cas chez l'homme, vie, liberté et propriété sont considérés ici comme des droits naturels et en grande partie, même si ce n'est pas expressément dit,
inaliénables, car ce sont des propres.
Les droits inaliénables, ce sont ceux qui constituent le propre. Pas la propriété, mais le propre.
Le propre, c'est avant tout la propriété de soi.
C'est ainsi que, tout en admettant, au grand scandale de Rousseau, la possibilité de l'esclavage volontaire, Grotius estime qu'il doit être, je le cite, renfermé dans les bornes de la nature. L'esclave volontaire doit être nourri par le maître qui n'a pas droit de vie et de mort sur lui. En ce sens, Grotius définit, certes de façon hésitante,
le cadre dans lequel il sera possible de considérer qu'il existe des droits subjectifs naturels, bref, les droits de l'homme. Point suivant, Hobbes, théoricien des droits subjectifs.
Je crois que c'est à Thomas Hobbes qu'il revient d'avoir distingué pour la première fois en toute clarté droit objectif
et droit subjectif,
law et right. Au chapitre 14 du Léviathan, il souligne
que les mots jus, right,
et lex, law, ont des sens non seulement distincts, mais opposés, puisque le droit
correspond à liberté,
au sens que Hobbes donne à ce terme, sans très particulier, je suis libre d'accomplir une action lorsqu'aucun
obstacle extérieur ne m'en empêche.
Alors que la loi énonce un commandement, divin ou humain, prescrivant d'accomplir telle ou telle action ou de s'en abstenir. Cette distinction a pour effet
une redéfinition extrêmement précise et claire des notions de droit naturel
et de loi naturelle.
C'est ma longue citation 5. Vous étonnez les références J'ai donné les références à la fois l'édition de poche en Penguin Books du Léviathan, à la traduction Siré qui est faite sur le texte anglais, et à la traduction Vrin qui est faite sur le texte latin. On sait qu'il existe entre le texte latin et le texte anglais du Léviathan des différences notables sur certains points. Donc, c'est utile de disposer, comme c'est le cas aujourd'hui, de deux traductions, alors que dans la traduction fort bonne, par ailleurs, de Tricot, les variantes latines étaient dans des notes, alors ça rendait les choses très compliquées, il fallait sauter de haut en bas. Là, on peut comparer les deux textes, le texte latin est plus court en particulier, et
la traduction est absolument parfaite. La traduction a été immédiatement là.
Donc, je lis. Je cite la traduction de Siret, je cite prioritairement la traduction de Léviathan.
En revanche, il vaut mieux éviter la traduction
chez Gallimard, je crois, qui comporte,
on va dire, pas mal d'erreurs et qui, en plus, n'est pas une traduction exhaustive. Bon. Le droit de nature que les auteurs appellent généralement jus naturale et la liberté qu'a chacun d'user comme il veut de son pouvoir propre pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu'il considérera selon son jugement et sa raison propre comme le moyen le mieux adapté à cette fin. Une loi de nature, lex naturalis, est un précepte, une règle générale découverte par la raison, par laquelle il est interdit aux gens de faire ce qui mène à la destruction de leur vie, ou leur enlève le moyen de la préserver, et d'omettre ce par quoi ils pensent être le mieux préservé. En effet, encore que ceux qui parlent de ce sujet aient coutume de confondre jus et lex, droit et loi, on doit néanmoins les distinguer, car le droit consiste dans la liberté de faire une chose ou de s'en abstenir, alors que la loi vous détermine et vous lie à l'un ou à l'autre. De sorte que la loi et le droit diffèrent exactement comme l'obligation et la liberté qui ne sauraient coexister sur un seul et même point. C'est très clair. Beaucoup plus clair que les explications passablement embrouillées de Suarez ou de Grotius qui n'arrivaient pas à comprendre l'articulation des différentes explications du mot latin. Ce propos du Léviathan est radicalisé dans le dialogue between a philosopher and a student of the common laws of England, date de 1661, texte dans lequel, à l'appui de sa thèse de la suprématie des lois prescrites par le souverain sur le droit édicté par les juges et entériné par la tradition, sur la common law, Hobbes fait de la raison du souverain, qu'elle soit, dit-il, forte ou faible, la source ultime du droit. L'anima legis, l'arme de la loi. Reprenant la définition de la loi, c'est-à-dire de droit objectif comme le signe, commandement de celui ou ceux qui ont le pouvoir souverain adressé à ceux qui sont ses ou leurs sujets, il en conclut qu'il faut distinguer entre lex et jus, car la loi me soumet à une obligation, alors que, je cite Hobbes, mon droit est une liberté que me laisse la loi de faire tout ce que la loi n'interdit pas et de ne pas faire tout ce que la loi n'ordonne pas. Il en résulte une rupture franche avec la problématique de la common law et avec la tradition romaniste qui privilégiait une définition objective du jus même lorsque le terme était employé au pluriel, par exemple dans l'expression commune iura populi romani, les droits du peuple romain. Hobbes confère avec beaucoup de conséquences une priorité logique au droit naturel subjectif à l'autoconservation par rapport aux lois naturelles et par conséquent une priorité au jus
par rapport à la lex.
Il en est, s'il est besoin de loi,
naturelle ou positive, c'est pour protéger ce droit fondamental
et en encadrer l'exercice. D'ailleurs, les lois naturelles ne sont pas à proprement parler des lois, puisque la loi se définit, je cite Hobbes, comme la parole de celui qui de droit commande aux autres. Ce sont plutôt les lois, ce qu'on appelle les lois naturelles, des théorèmes, en l'occurrence, des règles prescrivant dans l'intérêt de chacun l'autolimitation de l'exercice d'un droit naturel qui est en principe illimité. C'est un jus in omnia, un droit à toute chose, droit de tous à toute chose. Mais ce droit, bien entendu, parce qu'il est illimité, est en pratique autodestructeur, puisqu'il conduit nécessairement à la guerre de chacun contre chacun. Or, ces règles, les lois naturelles, les soi-disant lois naturelles, contrairement aux commandements impératifs de l'autorité, ça c'est aussi institué, ces règles peuvent se découvrir par simple calcul rationnel. La loi naturelle ne devient qu'une véritable loi que lorsque, une fois la société politique constituée, elle se transforme en un commandement du souverain, autrement dit, lorsque s'opère, ce qu'on appellera plus tard, une positivation de la loi naturelle, grâce à laquelle celle-ci et la loi civile viennent à se confondre dans la bouche du souverain. C'est bien parce que le droit subjectif à l'autoconservation est originaire, Hobbes est le premier à l'affirmer en toute clarté, donc en lui-même illimité, qu'il importe de le restreindre afin d'en jouir effectivement. La deuxième des lois, entre guillemets, de nature est que chacun renonce, sous condition de réciprocité, à son droit sur toute chose. Toutefois, Hobbes admet, je le cite, qu'il existe certains droits tels qu'on ne peut concevoir qu'aucun homme les ait abandonnés ou transmis par quelque parole que ce soit. Fin de citation. À savoir, ces droits dont l'abandon impliquerait un risque pour la sécurité de leur titulaire. Ainsi, nul ne peut, dit Hobbes, théoricien léviathan, pouvoir absolu du souverain, nul ne peut, dit-il, renoncer au droit de se défendre ou de fuir s'il est attaqué, même par des agents du souverain. Si les policiers viennent m'arrêter, j'ai le droit d'essayer de leur échapper. Je n'ai pas en chance d'y parvenir, mais j'ai le droit d'essayer. Parce que, si je vis en société, c'est pour préserver mon droit naturel à l'autoconservation. Par conséquent, il serait illogique, je ne peux pas y renoncer à ce droit. Et donc, même en société, je peux et je dois tout faire pour maintenir ce droit. Mais bien entendu, le souverain a lui aussi le droit d'estimer qu'il faut m'éliminer. Et il a toute chance d'y parvenir. C'est si vrai que même le consentement exprès de la personne concernée ne saurait justifier qu'elle soit privée de ses droits. En un tel cas, dit Hobbes, on doit conclure, je cite, on doit conclure qu'il ignorait comment ces paroles, qu'il a prononcées lui-même, devaient être interprétées. Il ne savait pas s'il voulait dire. S'il dit, je donne au souverain le droit de faire ce qu'il veut de mon corps et de ma vie. Si je dis ça, je ne sais pas ce que je veux. C'est quand même incroyable. C'est de la plume même de Hobbes. Cette inaliénabilité s'étend à certains droits subjectifs positifs, c'est-à-dire les droits institués par le souverain, si leur remise en question compromettait l'impératif de la sécurité juridique. Il en va ainsi de la distribution de la propriété. Même s'il est vrai que le souverain, pour satisfaire ses passions, Hobbes a le pouvoir de s'approprier les biens de ses sujets, et même si ceux-ci n'ont aucun pouvoir matériel de s'opposer à cette violation caractérisée de la loi naturelle, Hobbes soutient qu'une fois qu'elle est instaurée, et elle l'est par la volonté même du souverain, qui est la règle du mien et du tien, cette distribution de la propriété a un caractère obligatoire pour le souverain lui-même, et que sa violation, je cite Hobbes, doit être tenue pour nulle. On peut donc dire que pour Hobbes, il n'est donc pas interdit de présenter comme l'inventeur paradoxal de l'idée des droits de l'homme, il existe des droits subjectifs fondamentaux qui, pour une part, sont naturels, le droit à l'autoconservation et ses déclinaisons, pour une autre positive, le droit à la jouissance sûre des biens et des droits légalement acquis. Et ces droits ont vocation à se construire. Néanmoins, l'étendue de ces droits est strictement délimitée par les conditions d'existence de la société elle-même, hors de laquelle nul ne saurait jouir d'aucun droit effectif. Ils sont donc soumis, à quelques réserves près, je viens d'en citer une, à la puissance du souverain qui simultanément les garantit et en circonscrit la portée. Le renversement hobbesien manifeste ici toute sa complexité, ou si l'on préfère, toute son ambiguïté. Le droit subjectif est ontologiquement premier, et la société, en tant qu'espace des lois proprement dites, c'est-à-dire des lois politiques, est logiquement second. Elle est, la société, l'artifice symbolisé par le pacte social qu'il a fallu inventer pour pallier les effets ravageurs de l'exercice incontrôlé de leurs droits subjectifs fondamentaux par des hommes en proie à la crainte de la mort violente dans une situation où, dit Hobbes, chacun est l'ennemi de chacun. Mais cette secondarité logique des normes du droit objectif n'exclut pas, bien au contraire, qu'une priorité politique soit reconnue à la loi sur les droits ou à la sécurité sur la liberté, puisque l'exercice incontrôlé du droit subjectif est autocontradictoire. Et la théorie de la guerre de chacun, tous contre tous, chacun contre chacun. C'est une des leçons qu'on peut tirer de la construction, de la magnifique construction intellectuelle de Hobbes, conduite avec suffisamment de radicalité et de conséquence. Une pensée des droits subjectifs peut conduire à leur nécessaire encadrement et à leur restriction, sinon à leur négation. C'est au fond ce qu'implique la formule que j'ai déjà citée de Foucault, l'État moderne, dont Hobbes est le penseur par excellence, est à la fois individualisant, car en des droits subjectifs, et totalitaire, car il soumet les titulaires de ces droits à un régime de rationalité et à une géométrie du pouvoir hors de leur portée. Dernière partie de mon propos. Brève remarque, bref, sur Locke, Rousseau et Capre. Excusez-moi. Une étude complète du développement de l'idée de droit subjectif jusqu'aux révolutions du XVIIIe siècle devrait bien sûr examiner ce qui ne sera pas fait ici, les transformations significatives que la définition juste naturaliste des droits subjectifs a connues dans ce qu'il est convenu de nommer l'école du droit naturel. Pufendorf, Christian Wolff, Barbera, Bourlamaki, etc. Grâce à la diligence, l'extraordinaire patience de Madame Simone Goyard-Fabre, beaucoup de ces textes ont été mis à notre disposition et édités dans la précieuse bibliothèque qu'elle a constituée aux presses universitaires de Caen, où elle a
elle-même photocopier un à un tous ces classiques de Pufendorf, de Wolf, de Wolfsky, etc.
Et je ne vais pas en parler.
Il faudrait en particulier évoquer la
manière dont Locke, je vais le faire quand même rapidement, dont Locke fonde sur l'idée d'œuvre propre, parmi les célèbres, le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, l'idée d'un droit subjectif originaire et incessible de l'individu à, je cite, sa propriété, c'est-à-dire
sa vie,
sa liberté et ses biens. C'est un concept très étendu de la propriété par rapport au nom. De cette manière,
Locke consolide plus qu'il ne la renverse la conception hobbesienne du jus naturale, tout en inversant les conséquences qu'il convient d'en tirer. Chez Hobbes, la société politique et le monopole du pouvoir par le souverain étaient la solution au problème de constituer la coexistence à l'état de nature des prétentions également légitimes de tous. Chez Locke, en revanche, c'est l'existence de la société politique qui devient elle-même un problème. À quoi bon faire société et se soumettre aux contraintes que cela implique,
puisque la plupart des litiges susceptibles d'opposer les individus peuvent être réglés sans qu'intervienne un tiers, par exemple, on le voit au sein de la société familiale,
qui serait éventuellement au moyen de faire le baf, mais bon, ça se règle plus ou moins. Donc pourquoi la société?
On n'en voit pas la nécessité. En fait, la société n'apparaît nécessaire que parce que dans l'état de nature, il manque, je cite Locke, un juge investi de l'autorité de trancher toutes les controverses, d'arbitrer le conflit des revendications de droit. Ce qui caractérise la société politique selon Locke, ce n'est pas l'existence de droit. Locke s'accorde avec Hobbes au moins sur le fait que l'assise ontologique de ces droits, naturellement, si on veut, est indépendante de la formation de cette société politique,
mais c'est le fait que les individus renoncent à assurer eux-mêmes
l'exécution de la loi naturelle, dont dépend,
y compris dans un état de nature, les droits de chacun. Et cette loi naturelle, pour l'homme, est évidemment d'origine divine. C'est par une erreur de perspective qu'on voit parfois dans le traité du gouvernement civil, l'homme, une réponse à Hobbes. En réalité,
son véritable adversaire, comme dans le premier traité, est Sir Robert Filmer. C'est ce qu'a montré avec beaucoup de précision et d'exactitude John Donne dans son livre sur la pensée politique de Locke. Pour Hobbes, comme pour Locke, dont la véritable et profonde divergence concerne plutôt le statut et le mode de gestion de la loi naturelle, l'existence de droits subjectifs est ontologiquement garantie par la constitution de l'individu humain, alors que pour Filmer, cette idée de droit subjectif est née, je cite Filmer, simulacre de liberté qu'elle induit, ne vaut pas ça.
Quelques mots maintenant sur Rousseau,
et après quelques mots sur Kant, on aura fini. Ceux qui veulent voir en Rousseau le père
de Barras
d'une démocratie totalitaire, l'allusion au titre d'un ouvrage paru en 1950 de Jacob Dalmon, qui s'appelait Les origines de la démocratie totalitaire,
écrit dans le contexte
que l'on sait, de manière froide, etc. J'essaie de montrer que Staline
était dans Rousseau. Oui, c'était vraiment sa thèse. Bon, ceux qui veulent voir en Rousseau le père, le paraître d'une démocratie totalitaire, ont fait faux sur la phrase du contrat social
qui requiert, je cite, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la commune.
C'est oublié, évidemment, que cette aliénation n'est pas un
dessaisissement,
mais une conversion des droits de l'homme naturel en droits du citoyen garantis
par la puissance collective. De fait, et c'est ma citation 7, dernière, chacun, phrase bien connue du contrat, chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit que celui qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Il est vrai que une fois instaurée la société politique,
le contrat social sert de base à tous les droits,
en sorte que désormais,
je le cite de nouveau, tous les droits sont fixés par la loi. Mais le souverain
institué par le contrat et la loi positive qui les dit ne sont pas, me semble-t-il, je m'oppose un peu à mon ami Jean-Fabien Spitz qui,
dans un
remarquable livre sur la liberté politique, a dit le contraire. Mais bon,
c'est parti de controverses légitimes. Je n'exclus pas que ce soit lui qui ait raison. Encore que.
Il n'est pas là pour se défendre.
Mais le souverain institué par le contrat et la loi positive qui les dit
ne sont pas la source des droits subjectifs naturels,
mais plutôt leur
garant,
sous l'image de la conversion et de l'échange. Avant comme après l'acte d'association, un avant et un après logique plus que chronologique,
avant comme après l'acte d'association, il existe bien, je cite Rousseau, un droit naturel dont les individus doivent jouir en qualité d'homme. Livre 2, chapitre 4.
Et c'est ce droit naturel de l'homme qui rend illégitime
toute forme d'asservissement social, en particulier esclavage.
L'existence
d'une société politique authentique, celle dont le contrat social décrit la structure, présuppose la liberté qu'elle a vocation à garantir. Elle ne saurait aller contre cette liberté, ni abolir les droits en lesquels elle s'incarne. Je cite une phrase très célèbre. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme,
aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Livre 1. Chapitre 4. Comme chez Hobbes, dont Rousseau épouse fidèlement la problématique en vue d'en
inverser les conclusions,
les droits naturels a ou ont une consistance ontologique spécifique que la loi civile, comme on dit le droit positif,
doit
remplacer Hobbes
ou relayer Rousseau.
Il faudrait ici, et je vais le faire très rapidement, examiner la manière dont Kant, tirant la leçon du travail déclaratoire accompli par les constituants français,
procède à une déduction des droits subjectifs considérés comme acquis,
mais néanmoins naturels,
puisque leur justification n'est pas positive ou, dans le vocabulaire de Kant,
statutaire. Déduction donc des droits subjectifs à partir du seul et unique droit inné qu'est la liberté, je cite,
unique droit originaire
qui appartient à tout homme en vertu de son humanité. Une précision,
c'est une erreur fréquente, malheureusement, de faire correspondre la distinction que fait Kant dans sa doctrine du droit entre droit inné, angeborenes
être, et droit acquis, et faire correspondre avec la distinction
entre droit naturel et droit positif. Les droits acquis seraient des droits positifs, alors que le droit inné serait un droit naturel. En réalité, les droits acquis de Kant sont, à
avant d'être transformé en droit
statutaire, comme on dit, en droit positif par l'État,
les droits acquis
sont des droits naturels.
Mais ils sont logiquement dérivés, donc dépendants,
du seul et unique droit inné, qui est l'égale liberté, qui correspond à ce que Arendt plus tard nommera en une formule célèbre le droit d'avoir des droits.
Grâce à cette unification conceptuelle des droits subjectifs, toute la panoplie des droits subjectifs,
sous l'égide de la liberté, entendue comme, je cite, indépendance vis-à-vis de l'arbitre contraignant d'autrui,
Kant est en mesure d'en fournir du droit subjectif une définition admirablement concise. Un droit subjectif n'emploie pas l'expression, mais
bien l'idée, un droit et, je cite, un pouvoir moral obligé.
Rappelons, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'expression pouvoir moral,
que dans le lexique kantien, morale ne s'oppose pas à juridique.
La morale, dit morale, est plutôt le
genre dont droit et éthique, objets respectifs de la doctrine du droit et de la doctrine de la vertu, sont les aspects.
Le terme
morale ne doit pas être confondu avec ce que nous appelons la morale. C'est plutôt, disons, le genre commun des normes sous lequel entrent comme espèce aussi bien les normes juridiques,
naturelles et positives,
que les normes éthiques, objet de la doctrine. L'existence de droits subjectifs naturels et de droits subjectifs positifs est le caractère distinctif de la sphère du droit en regard précisément de celle de l'éthique. Alors qu'une éthique déontologique, comme celle de Kant, fixe des obligations et des interdictions, le droit définit de surcroît des droits naturels et positifs. Ces droits existent en tant que tels, Kant le dit explicitement,
dans un hypothétique état de nature, qui est à comprendre, dit-il, comme un état de droit privé, même si leur existence demeure
précaire, Kant dit provisoire, indépendamment de la sanction étatique qui vient ex post les rendre,
Kant, péremptoires.
La distinction qui est faite à cette occasion, par Kant, entre das Naturrecht,
droit
de nature, et die Naturrecht, les droits naturels, entre le droit de nature et les droits naturels, est la traduction lexicale
du double sens que comporte le terme allemand das Recht,
comme le français droit, et elle anticipe
cette distinction,
la distinction que feront bientôt les juristes entre droit objectif et droit subjectif. Mais ce qui importe, c'est que Kant affirme ainsi, en toute clarté,
l'existence de droits subjectifs naturels,
ce qui est une transposition évidente, mais prudemment contournée. Kant savait les limites de ce qu'il lui était possible de dire dans le contexte de la monarchie prussienne, de la transposition évidente, mais prudente, de la thématique révolutionnaire, des droits naturels, inaliénables et sacrés. Je conclue rapidement.
Une des raisons,
sans doute la principale, de la place centrale des droits subjectifs,
quelle que soit leur dénomination,
dans l'image que la modernité s'est donnée d'elle-même,
est le rôle cardinal qui joue la liberté en tant que catégorie juridique et politique, mais aussi les droits participent d'une ontologie de la liberté, celle-ci assurant, pour emprunter l'expression d'Arène, le droit d'avoir des droits.
Faut-il en déduire que les droits subjectifs sont historiquement et conceptuellement arrimés à la conception libérale de la liberté,
telle qu'elle s'est imposée à l'occasion des évolutions et des révolutions
qui ont donné naissance à ce que Norbert Elias a appelé la société des individus, sans doute, à condition toutefois de ne pas oublier comme certains libéraux le font volontiers, la part d'ombre que comporte dès l'origine la promotion des droits subjectifs et de la liberté des modernes, part d'ombre que l'œuvre de Hobbes porte toujours. Car le sujet des droits subjectifs n'est pas seulement le sujet, au sens philosophique du terme, déployant de façon autonome les œuvres de sa liberté, c'est aussi celui qui est littéralement constitué par le rapport de sujétion qu'il entretient avec un pouvoir souverain qui s'exerce sur tout son être. Il est à la fois subjectum et subditus. La notion de droit subjectif n'est pas seulement moderne parce qu'elle illustre le caractère fondamental de la liberté, mais aussi en raison de son lien constitutif avec la domination étatique. Dans le justnaturalisme moderne, de Suarez, Grotius et Hobbes à Locke, Rousseau et Kant, les droits subjectifs ont une position fondatrice. Ce sont des idéalités discursives au service moins d'une affirmation triomphante des pouvoirs concrets des individus que d'une stratégie de légitimation d'un ordre social et politique exigeant leur sujétion. Les révolutions de la fin du XVIIIe siècle vont toutefois changer la donne et ouvrir la voie à une conception conquérante des droits dont le libéralisme politique et, dans le domaine de la philosophie du droit, le positivisme juridique vont être les expressions.